Voilà, donc je vous présente les intervenants d'aujourd'hui sur ces questions donc liées bioéthiques liées à la fin de vie. Donc le docteur Chantal Haber, voilà, est médecin cardiologue, d'abord membre de la communauté de l'Emmanuel, médecin cardiologue. Elle a donc exercé comme cardiologue en libéral et à l'hôpital, puis en soins palliatifs, voilà, en équipe mobile intra-hospitalière. Voilà. D'autre part, elle a fait un master de philosophie pratique pour les soignants et elle a travaillé sur, en faisant des mémoires sur l'agonie, sur la réconciliation en fin de vie et sur les soins palliatifs en cardiologie. Voilà, pour ceux qui voudraient creuser toutes ces questions. Après, le docteur François Scaravano, membre de la communauté de l'Emmanuel, médecin de formation donc et épouse de médecin de campagne. Voilà, qui est actuellement aumônier d'hôpital. Le docteur Serge Longour, membre de la communauté, médecin généraliste et fondateur d'une équipe de soins palliatifs à domicile. Voilà, médecin généraliste en ville.
Bonjour à tous. J'ai conscience que voilà, il fait très chaud, nous sommes en début d'après-midi et le sujet est complexe, difficile et n'est pas forcément attirant d'emblée comme ça, d'autant que je vais avoir 30 minutes, hein, ce qui est très court. Donc je vais essayer de vous laisser quelques messages, quelques cadres, des pistes de réflexion et sachant que dans le temps de questions, nous pourrons redéployer certains sujets abordés trop vite. Voilà, quand on m'a proposé cette petite intervention, en fait, le titre qui avait été donné m'a beaucoup plu. C'était tout simple, le bout de la vie, c'est encore la vie. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait deux fois le mot vie. Et je me suis dit, ah ben génial, parce que chaque fois qu'on parle de ce qu'on vous a plutôt donné dans le programme soins palliatifs, euthanasie, enjeux de fin de vie, je ne sais pas ce que ça fait pour vous, mais il y a tout de suite une espèce de lourdeur sur le sujet, parce que médiatiquement, chaque fois qu'on en parle, c'est toujours finalement pour parler plus de la mort que de la vie. Et je trouve que parler de la vie en introduction, c'est bien pour ce sujet. Donc je me suis plongée dans l'évangile de Saint Jean, que je ne vais pas vous offrir en méditation parce que les 30 minutes y passeraient largement. J'ai regardé le chapitre 6 où il y a la multiplication des pains, la marche de Jésus sur la mer et surtout le discours sur le pain de vie, et j'ai retrouvé 18 fois le mot vie ou vivant, qui est quand même un nombre assez important. Deux paroles que je vous redonne tout de suite pour nous situer vraiment dans le sujet. Surtout à Parémonial, près du cœur de Jésus. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, qui en mange ne mourra pas. Je fais un petit lien aussi avec ce matin, dans la lecture du jour, un petit verset du psaume 98. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donne, que Dieu donne à l'homme. Une des lois qu'il nous donne, c'est « Tu ne tueras point ». Toujours en petite introduction, un témoignage tout simple m'est revenu. Un patient que j'ai accompagné lorsque je travaillais en Seine-Saint-Denis, un monsieur de 50 ans, environ 50-60 ans, tout seul. Il avait été orphelin de mère à l'âge de 5 ans. Il n'avait plus qu'un neveu. Il habitait une petite chambre d'hôtel. La retraite suffisait tout juste à payer la chambre. Il avait un cancer. Il m'avait demandé du Viandox que je vais apporter. Ça fait partie, on pourra en reparler aussi, des désirs des malades dans les hôpitaux. Mais Viandox, c'est pas cher, ça se trouve pas dans l'hôpital. Et si personne n'entend la demande, il n'y a jamais de Viandox pour le patient en fin de vie. Je ferme la parenthèse. Je vais apporter du Viandox. Après, il y avait la question que le forfait journalier, je ne sais plus de combien il était à l'époque, peut-être en France, 50, 70 francs à l'époque. Il n'avait pas assez d'argent pour le payer et il était en fin de vie et il ne mangeait plus. Voilà. Autre petite parenthèse en introduction, la démarche assistante sociale pour essayer d'enlever le forfait journalier à un patient qui ne mange plus. Et ce patient arrivé dans ses dernières heures de vie nous a appelé, l'équipe, nous étions que deux dans l'équipe ce jour-là, l'infirmière et moi-même, donc nous n'avons pas pu y aller ensemble, j'y suis allée seule. Il était en train de vraiment de se transformer physiologiquement, il avait une respiration de plus en plus faible, assez paisible quand même, mais il commençait à s'angoisser un petit peu. Il m'a dit, j'ai besoin de parler. Il s'est mis à me parler de plein de choses. Et puis après, je lui ai demandé, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous? Il m'a dit de récupérer la clé de ma chambre d'hôtel pour pouvoir la donner à mon neveu. Voilà, alors je lui ai dit qu'on allait faire en sorte de le faire. Et puis nous sommes restés en silence. Il m'a pris la main. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, mais l'essentiel, docteur, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que j'aime le bon Dieu et que le bon Dieu m'aime. Moi, je lui ai dit, écoutez, je crois que vous êtes dans l'essentiel. Je sais même pas si j'ai répondu ça. En tout cas, j'ai pensé très fort. Il m'a demandé un petit peu d'anxiolytique. Donc, j'ai vu ça avec le service, mais vraiment des très petites doses. Donc, il est resté conscient et il est mort en fin d'après-midi. Voilà. Je voulais donc parler de vie et d'amour. Parce qu'il nous a parlé d'amour, ce patient. Et le Seigneur nous parle de vie. Voilà. Donc, pourquoi parler toutes ces questions des soins palliatifs? Parce que la question se pose depuis la nuit des temps, mais peut-être plus spécialement depuis les années 80, où vous avez pu remarquer qu'au fur et à mesure de décrets et de lois et de développement d'associations, les soins palliatifs sont quand même médiatiquement dits, et donc la plupart des gens en ont entendu parler, encore qu'aujourd'hui un certain nombre ne savent toujours pas, ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, mais quand même c'est un sujet qui avance. Parallèlement à ce sujet, avance la question de l'euthanasie. C'est que parallèlement au développement des soins palliatifs, on entend des demandes de mort de plus en plus réitérées, avec des grands débats médiatiques autour de l'euthanasie. Et généralement, on parle des soins palliatifs d'abord parce qu'on a parlé d'euthanasie. Donc c'est un petit peu dans un sens inversé. Les soins palliatifs, je vais être assez bref parce que je pense que vous connaissez pour la plupart, j'espère, je pense. Vous savez que c'est des soins actifs de personnes qui sont en phase évolutive d'une maladie grave, qui s'attachent à soulager les symptômes physiques, très particulièrement la douleur, psychique, et à répondre aussi aux besoins sociaux, professionnels, spirituels, enfin toutes les questions finalement qui sont au centre de l'homme dans cette épreuve de la maladie. Il s'agit aussi d'accompagner le patient, mais d'accompagner aussi les proches, voire même d'accompagner aussi et de soutenir les soignants dans les services. Les soins palliatifs, c'est clair dans les statuts de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, s'opposent à l'euthanasie. On entend par euthanasie, juste un petit rappel, l'intention par un acte délibéré, intention ou omission, de donner la mort pour soulager une souffrance. C'est donc une transgression dans sa définition de « tu ne tueras point ». Les enjeux actuels, je dirais que c'est l'avenir même de la société. Actuellement, si je reviens sur ce que vous avez eu le premier après-midi, la société est vraiment sous la pression de tous les courants que nous avons déclinés, libertaires, individualistes, utilitaristes, relativistes et émotionnels. Donc ces questions vont être abordées sous ces prismes différents. Et on peut comprendre pourquoi, et on va entendre les droits à maîtriser sa vie et sa mort, le désir bien sûr de ne pas souffrir, donc de tout faire pour ne pas souffrir, la compassion plus ou moins bien placée, savoir quel est le bien et le mal pour la personne, là il y aurait beaucoup à dire aussi, et beaucoup d'émotions dans tout ça bien entendu, puisqu'on touche à une épreuve qui est d'abord, enfin qui est une tragédie souvent, et qui est très émotionnelle pour toutes les raisons que vous connaissez vous-même. En particulier autour des peurs et des angoisses. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn et Abel, vous savez où le Seigneur lui dit après, mais qu'as-tu fait de ton frère? Alors, voilà, je nous pose la question, sommes-nous gardiens de nos frères? Ce sera un enjeu dans peut-être la loi à venir. Si on arrive dans des dérives euthanasiques, ça veut dire quoi? Être gardien de son frère dans la phase la plus ultime, vulnérable, fragile de sa vie et de la nôtre. Cette question, donc, pourrait devenir complètement relative selon les cas, sur la valeur de la vie. Et si les dérives arrivaient, quid de la solidarité entre les hommes, quid de la fraternité, quid de l'attention aux plus fragiles, quelle compassion, confusion entre le bien et le mal, ou alors un mal relatif à un bien relatif pour chacun? Un point important, me semble-t-il, c'est pas toujours abordé, en tous les cas, je trouve, la question de la confiance, confiance entre les hommes, mais confiance entre le médecin et le malade, confiance entre les familles et les médecins, les familles et les soignants. Que va-t-il se passer? Que se passer dans les pays où cela arrive par rapport à ces questions de confiance? Alors déjà, Il y a beaucoup de problèmes, de procès juridiques, etc. Des deux côtés, il y a des soucis. Des deux côtés, il y a des manques. Des deux côtés, il y a des problèmes de mauvaise approche ou de compétences. On est d'accord. Mais quand même, la confiance, elle est absolument essentielle. Et on voit les médecins, au plus, la confiance diminue avec un malade. J'allais dire, au moins, ils vont pouvoir travailler. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que c'est vraiment très proportionnel au potentiel qu'on peut donner dans notre soin. Et il y aurait beaucoup de témoignages à donner. Atténuation de la responsabilité personnelle, de la culpabilité, c'est que aussi dans la dernière loi dont je vais parler, la proposition de loi Leonetti, l'avis du Conseil de l'Ordre national des médecins, on pourrait presque supposer une transgression collégiale, consensuelle, et ce qui permettrait peut-être de se dire, eh ben alors à ce moment-là, on n'est pas tout à fait, est-on complètement responsable, un peu relativement responsable ? Et perte surtout du respect inconditionnel de la vie, bien sûr. Alors j'ai conscience que toutes ces questions sont douloureuses, vous toucheront forcément d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui ou demain. J'apporte pas du tout de réponse, c'est juste aussi un partage d'expériences et de témoignages par rapport à toutes ces années passées auprès des patients. En sachant que vraiment un jour ou l'autre nous serons confrontés, nous l'avons été, et que j'ai envie d'emblée de dire que chaque situation est singulière. Et que même ce que je vais dire aujourd'hui, c'est il y a peut-être un peu de généralisme, mais en fait, dans chaque situation, nous pourrons être dans la créativité, l'inventivité, l'esprit sain, parce que ça ne se passe jamais pareil. Là aussi, il y aurait beaucoup de témoignages à donner. Entre deux pathologies, deux histoires dans un même service, on va avoir des évolutions, mais qui n'auront rien à voir l'une avec l'autre. Voilà, je vais faire un bref rappel du cadre actuel, législatif, et puis de tout ce qui s'est passé cette année, en essayant de balayer l'avancée des soins palliatifs en deuxième intention, et ensuite comment nous pouvons être acteurs, comme hommes et comme chrétiens, dans ces questions, dans son engagement aux côtés de la fin de vie. La loi Leonetti, je vais brosser, 22 avril 2005, elle est arrivée à la suite d'autres lois et décrets. Elle a surtout affirmé le refus pour le patient de pouvoir, la possibilité pour le patient de pouvoir refuser un traitement, pour le patient et pour le personnel soignant, en particulier quand le patient ne peut pas exprimer sa volonté, de limiter des traitements jugés inutiles ou disproportionnés. Elle introduit la procédure collégiale, c'est-à-dire qu'un médecin ne pourra pas décider seul une action de limiter ou d'arrêter un traitement sans qu'il y ait une décision avec d'autres médecins, l'équipe soignante. Elle introduit la notion de personne de confiance, qui est un proche ou même le médecin traitant, quelqu'un de la famille, qui va être le principal référent et médiateur et qui va donner son avis aussi si le patient ne s'exprime pas par rapport à ce qu'il aurait pu exprimer dans ses désirs et ses volontés. Et elle introduit la notion de directive anticipée. Il faut savoir que directive anticipée, qui serait une manière de rédiger ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas, si on avait telle ou telle chose, ou alors de le rédiger quand on est malade avec le médecin, ces directives anticipées, dans une étude récente de l'Observatoire national de fin de vie, montrent que sur une cohorte de patients qui ne pouvaient plus s'exprimer, seulement 1,5% les avaient écrites. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup et en fait, pour vous et moi, c'est pas si simple que ça de se projeter quand on est bien portant et de se dire qu'est-ce qu'on voudrait ou pas. Alors c'est des mots qui circulent de plus en plus, mais finalement ils sont pas très simples à poser et ça demande beaucoup de travail. Le rapport SICAR, c'est un rapport qui a été rendu au mois de décembre 2012 à la demande de François Hollande, qui avait dit dans son programme « Je proposerai à toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. » Quid assistance, quid médicalisée, quid dignité. Voilà. Déjà rien que dans ces trois mots, qu'est-ce qu'on met derrière ? Est-ce accompagner ? Est-ce donner des médicaments pour mourir ? Est-ce, je ne sais pas. Enfin, on peut avoir des idées quand même. Donc, cette mission a été faite par le professeur Sicard, ancien président du Comité national d'éthique. Il y a eu beaucoup d'audits dans toute la France, des débats, etc. Il y a eu même 20 entretiens semi-directifs avec des personnes, j'allais dire, en position gravement malade. Étonnamment, c'est les 20 qui ont moins répondu sur la question, disant que la loi, ben, elle devait suffire et qu'en fait, eux, ils étaient dans leur problématique, ils avaient besoin d'être écoutés, entendus, mais ils n'avaient pas trop envie de débattre sur cette question, ils n'avaient pas forcément envie d'en parler. C'était intéressant aussi. Les constats. Alors là, je donne que des mots parce que sinon, ça serait trop long. La médecine est technicienne. La maladie, beaucoup de pathologies se chronicisent. Même, par exemple, en cardiologie. Moi qui ai vu la cardiologie il y a 20-25 ans. On a traité beaucoup d'infarctus, on pose des stents, on dilate les coronaires, etc. Donc, on crée des pathologies chroniques, hein, et dans beaucoup d'autres domaines aussi. Il va falloir les accompagner et il y aura des symptômes plus ou moins simples. Il y a eu beaucoup d'acharnement thérapeutique. C'est encore vrai aujourd'hui. Ça a été vrai il y a 20-30 ans. Ça a été beaucoup décrié, mais il y en a encore aujourd'hui. Du côté du patient, le patient est de plus en plus un sujet de droit, c'est-à-dire qu'on est sorti du modèle paternaliste et en même temps, en plus avec l'arrivée d'Internet et des médias, beaucoup de malades vont aller voir les diagnostics, etc. Ils sont pas toujours prêts à les recevoir, mais ils vont chercher partout. Donc ça change aussi la relation et du coup ça change aussi les demandes des patients. La mort en France est tabou. La mort naturelle à la maison devient quand même, je crois, très minoritaire. La mort fait peur et elle nous est présentée tous les jours, à la radio, tout le temps. Et c'est que des morts violentes ou des morts virtuelles. Mais la mort accompagnée, simplement. Petit témoignage, quand j'étais cardiologue, j'étais en Seine-Saint-Denis, j'avais été appelée dans une maison. Il y avait un petit monsieur de 95 ans. J'allais dire, comme j'avais jamais vu, c'est-à-dire qu'il n'avait rien. Il avait le cœur qui se ralentissait un petit peu. Et il parlait pas beaucoup. Et pour moi, il était en train de partir comme une petite flamme qui va s'éteindre. Alors, le généraliste m'avait demandé d'aller le voir. Donc, j'ai fait mon petit bilan cardiologique. J'ai dit, écoutez, je crois que il y a pas grand chose à faire. Faut un petit peu le perfuser parce qu'il arrivait plus trop à boire. Et puis, j'ai transmis ça à la famille, au médecin. Le médecin était d'accord parce qu'il le connaissait très bien, le médecin généraliste. Et en fait, la famille n'a pas voulu. Et ce malade a été transféré à l'hôpital. Il avait sa femme à la maison. Il est resté 8 jours tout seul, sa femme pouvait pas trop se déplacer, et donc il est mort tout seul. Voilà. Et là, j'avais 30 ans, et ça m'avait beaucoup choqué. J'étais pas du tout dans le domaine des soins palliatifs et tout ça, j'étais loin encore de ça, mais voilà, c'est des expériences qui vous restent, et je m'étais dit comment, là où c'est le plus simple possible, je ne porte aucun jugement, hein, quand je vous transmets ça, c'est aucun jugement par rapport à la famille. Pour dire les peurs, voilà, quelque chose qui pouvait paraître simple finalement, mourir à la maison et tout ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait, comment s'en occuper, etc., c'était impossible. Revendication de l'autonomie, désir de bonne mort, peur de la réanimation, peur pour en particulier les personnes dans les maisons de retraite, comment ça va se passer dans les maisons de retraite. Donc on voit beaucoup de personnes âgées qui vont arriver en urgence dans le service des urgences pour quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe là? Les médecins les connaissent pas, ça se passe pas très bien tout ça. Bon, ça, il y a beaucoup à faire aussi. Le rapport Sicard dit même, entre guillemets, je vous le cite, le pouvoir dans la médecine a remplacé la foi en Dieu. C'est écrit dans le rapport. Problème économique, tarification de l'activité dans les hôpitaux, inégalité financière dans les territoires ou dans les différents départements. Et pourtant, il y a encore beaucoup de coûts pour l'acharnement, alloués à l'acharnement thérapeutique. Je m'exprime pas bien, mais veut dire que il y a encore sans doute des acharnements thérapeutiques qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, on voit bien qu'on est plutôt dans une question d'équilibre et de pensée du soin et de réflexion sur le soin. La médecine est désarmée. Alors, trop de culture curative technicienne, aussi reconnue par beaucoup de patients, de patients qui ont été patients ou de personnes présentes au débat, c'est que il y a pas assez d'écoute, hein. Il n'y a pas assez peut-être d'examens cliniques maintenant aussi, ce qui est pas mal reproché aussi. On dit on fait beaucoup de techniques, mais finalement, est-ce qu'on passe par le toucher, l'examen comme on a appris à le faire, c'est-à-dire d'être avec le patient, de l'entendre, de l'écouter, de le toucher, de sentir, de percevoir ce qui se passe. Les médecins soins palliatifs, dans le rapport, sont étiquetés humanitaires. Ça, c'est drôle quand même, hein. Voilà. La loi Leonetti est peu connue. Chez les médecins, environ 50%. Les soins palliatifs sont relargués à la toute fin de vie et ils sont encore opposés aux soins curatifs. Et il y a des difficultés de permanence, en particulier pour les patients suivis à domicile, ça, c'est des problèmes d'organisation. Les soins palliatifs, leur développement, il y a eu un encouragement répété auprès des gouvernements. Ils restent incantatoires, donc ils se posent la question du rôle des pouvoirs publics. Autre problème, la formation insuffisante chez les soignants, chez les médecins, avec des résistances, des manques de temps, etc., trop de charges de travail, etc. Bon, donc en fait, il nous dit, ce qui prime aujourd'hui, c'est la performance, l'efficacité, la compétitivité, l'hyperspécialisation des différentes pathologies. Et par exemple, il n'y a pas beaucoup de soins palliatifs auprès des personnes âgées ou auprès de certaines spécialités en neurologie. Ça vient, hein, mais bon, c'est tous les problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, c'est compliqué aussi. Ça pose pas mal de questions éthiques sur les limitations de traitement. Ça se développe, mais on s'est surtout orienté sur la cancérologie dans ces 20 dernières années. Auprès de la famille et du patient aussi, tout le domaine plus émotionnel, les peurs, peur de souffrir, grande peur actuelle qui ressortait dans pratiquement tous les débats, c'est la peur de la dépendance. Donc d'être à charge, d'avoir besoin des autres, ou encore d'avoir peur que les autres puissent pas s'occuper de vous. Est-ce qu'on retombe dans la lecture utilitariste et individualiste, mais peur d'être objectisé ou que ça va mal se passer. Donc finalement, les sondages qui nous montrent 85% de personnes qui désirent l'euthanasie, c'est finalement j'ai pas envie d'être tributaire et de plus maîtriser. Donc c'est pas forcément idéologique, c'est juste mais qu'est-ce que je vais faire, comment, si ça se passe pas bien, je préfère finalement éviter ce risque là. Il y a aussi des pertes de sens de la souffrance, donc de toute la lecture de ce qu'on est en train de vivre de difficile, et quel sens ça a. Alors c'est vrai que dans une société qui se matérialise et qui n'est plus dans l'ouverture spirituelle, enfin, en tout cas il y a une soif, mais en tous les cas qui n'est pas dite, où ils n'ont pas les réponses forcément, c'est vrai que la perte de sens elle est frappante, hein. Dans les demandes d'euthanasie, on a souvent eu des demandes d'euthanasie parce que ça n'avait pas de sens, et donc il fallait essayer de déployer derrière. Je pense à une femme, ça me revient, une femme qui pleurait beaucoup, qui m'avait appelé pour une demande d'euthanasie. Enfin, plus exactement, le service vous appelle à l'hôpital quand il y a des demandes d'euthanasie, parce que c'est très inconfortable comme demande, et on est là pour ça. Et cette femme pleurait beaucoup, et quand j'ai parlé un petit peu de sa vie avec elle, elle m'a dit « J'ai un mari, je suis divorcée, j'ai 3 enfants et je ne les vois plus ». Alors, notre rôle, c'est pas de rentrer dans toute l'histoire familiale et forcément de tout comprendre. Ça sert pas forcément. Puis en plus, on n'a pas forcément le temps. Et puis, c'est pas l'objet. Voilà. Elle avait pas forcément non plus envie d'en parler. Simplement, alors là, je me suis mis à prier en moi-même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux entendre et dire et répondre, si tant est que je puisse répondre quelque chose. Et en même temps, elle demandait une euthanasie bien, quoi. Donc moi, je me suis positionnée en tant que médecin sans palliatif, en tant que équipe, et voilà. Bon. Et à ce moment-là, ça c'était une vraie inspiration de l'Esprit Saint, et je lui ai dit, mais vous avez eu 3 enfants, et vous avez donné la vie. Et là, mais j'oublierai jamais son visage. Le fait d'avoir dit « vous avez donné la vie », je dis « ça, ce que vous avez donné ne sera jamais perdu, vous l'avez donné pour l'éternité, c'est pour toujours, et vos enfants, ils sont en vie. Peut-être que vous ne les voyez plus, vous ne savez pas ce qu'ils deviennent, mais c'est vous qui leur avez donné la vie. » Et elle s'est transformée. Je ne peux pas vous dire, elle s'est mise à pleurer, elle était rayonnante, en même temps qu'elle pleurait. Et évidemment, la demande d'euthanasie est tombée. C'était là la réponse à la question du sens. Enfin, la réponse, en tous les cas, une piste. La conclusion du rapport, ils font donc plusieurs recommandations. Une recommandation intéressante, c'est impératif du respect de la parole du malade et de son autonomie. Je trouve que c'est bien que le rapport le dise. Il a dit beaucoup de choses en fait qui sont très justes et qu'on constate partout dans les hôpitaux pour ceux qui travaillent dans ces domaines. C'est que la parole n'est pas toujours respectée. Donc c'est pas toujours le patient qui demande l'euthanasie, ce patient qui demande simplement un souhait. Je vous parlais du Viandox tout à l'heure. Je pense à un autre petit monsieur qui avait un problème de valve cardiaque, donc il faisait des insuffisances respiratoires liées à son problème cardiaque. Et en fait, ça n'allait pas avec les infirmières. Enfin, c'était conflictuel, ça se passait pas bien. Il s'agitait tout le temps, il était angoissé. Puis elle me disait, on sait plus quoi faire. Alors moi, je suis allée le voir. Bon, on a parlé des symptômes et tout ça, ce qu'on pouvait arranger au niveau médical. Et après, je lui dis, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Il m'a dit une bière. Bon, En fait, ce petit monsieur, il faisait très chaud et il avait l'habitude de boire une bière par jour, quoi. Alors, si vous mettez juste à sa place, vous vous dites, vous avez 90 ans, vous prenez une bière par jour, vous êtes à l'hôpital, il n'avait pas beaucoup de famille, plus à mon avis, enfin, il n'y avait pas beaucoup de visites, vous n'avez personne qui vous l'apporte. Lui, il savait très bien qu'il allait mourir, il voulait une bière. Alors, j'ai dit aux infirmières, ça serait bien d'apporter une bière, si vous pouvez. Ils ont apporté une bière. Bon, ce qui a été incroyable, c'est que la bière, elle a été posée sur la table de nuit. Il n'a jamais bu. Voilà. Mais il a arrêté, les choses se sont apaisées. Respect de la parole. Je peux en donner plein d'exemples. J'essaie d'en donner deux, trois comme ça à cause du temps. Impératif des décisions collégiales. Bon, ça c'est important parce qu'il y a eu trop d'histoires quand même délétères avec des décisions médicales singulières, avec le médecin qui décide seul. Entre parenthèses, qui fait voir aussi la solitude du médecin. Donc ça protège aussi le médecin. Donc ça c'est une bonne chose que ça soit. Ce sont des bonnes avancées de la Lonetti, la collégialité. Et le rapport SICAR dit aussi qu'il faut appliquer la loi avant d'en faire une autre. Ce qui paraît évident, mais comme il y a déjà des propositions qui arrivent en plus, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà la connaître. Que les situations sont très complexes et que de toute façon une loi ne peut pas résoudre les situations complexes. Et que transgresser un interdit est dangereux. Donc c'est plutôt une conclusion intéressante. Après il parle, s'il y a une dépénalisation, qu'est-ce que ça pourrait engendrer ? Responsabilité impliquée de l'État et de la médecine, qui seraient tous les deux responsables de ce type de nouvelle loi sur l'euthanasie. Et que ça changerait surtout le rôle et les valeurs de la médecine. Ça changerait complètement le serment d'Hippocrate, et on en revient à la question de la confiance et aussi du devenir de la société. Je passe. Pour mémoire, articles 37 et 38 du Conseil national de l'ordre du Code de déontologie résument très bien tout ça, avec beaucoup de détails sur le devoir du médecin, mais je trouve très bien expliqué sur ce devoir de prodiguer des soins palliatifs qui sont donnés dans la loi Leonetti, mais qui ne sont pas suffisamment faits en pratique. Que vous dire que l'Académie nationale de médecine s'oppose formellement à une loi sur l'euthanasie, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, le Conseil de l'Ordre a écrit un texte sur fin de vie, assistance à mourir, où il parle de sédation pour des agonies prolongées, qui n'auraient plus trop de sens. Donc c'est des phrases. Je vous invite, si vous êtes bien concerné, à aller voir les textes, parce que ce sont des phrases assez, j'ai trouvé assez ambiguës. Et quelque part, il dit que la transgression finalement serait plus entendable de façon collégiale. Enfin, c'est assez curieux. Ça fait un petit peu pente glissante, et rien que le titre, c'est assistante à mourir et fin de vie. C'est Conseil de l'Ordre. Voilà. Et le Comité national d'éthique a rendu donc début juillet son avis. Dans la majorité des cas, dit que la loi sur une loi euthanasique n'est pas du tout en faveur. Par contre, il est en faveur sur la question de la sédation en phase terminale, qui est vraiment le sujet qui est en train d'arriver. Donc, de rendre inconscients les personnes à leur demande. Alors, en réalité, en pratique, ça se passe souvent beaucoup dans la discussion et dans l'échange. On pourrait revenir dans les questions. Sauf qu'il y a un certain nombre de patients et de sujets qui sont déjà, qui savent déjà que eux voudront une sédation. Donc ils la demanderont, et Jean Leonetti a fait une proposition de loi en février avec notamment deux articles en substance qui imposeraient les directives anticipées et qui donneraient droit à la sédation pour les patients. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive avec une directive anticipée en disant « je veux une sédation », on va rentrer dans la question si ces deux articles seraient un jour ajoutés de la clause de conscience du médecin. Parce qu'à ce moment-là, c'est imposé. Voilà. Là, bon, ça, c'est une proposition avec deux articles. Pour l'instant, on en est loi Leonetti, avis du Conseil national d'éthique. Voilà. Mais bon, à voir dans les mois qui viennent. Quelques mots sur les soins palliatifs. Actuellement, 107 unités de soins palliatifs en France. Ce sont des services où on s'occupe des patients en fin de vie. 350 équipes mobiles. Là, ce sont des équipes de conseil pluridisciplinaires et qui vont dans des services ou dans des maisons de retraite pour conseiller, aider à la prescription, accompagner. Et on a des lits identifiés soins palliatifs, on en a 4700. C'est des lits qui sont dédiés dans certains services où il y a beaucoup de décès pour qu'ils aient des budgets particuliers en principe pour pouvoir développer mieux la question de l'accompagnement palliatif. Même si l'expampatif se développe, parce qu'il y a eu beaucoup de développement dans ces 10 dernières années, il y a encore des questions de moyens. Il y a surtout des problèmes d'hétérogénéité dans l'ensemble de la France. Il va y avoir des régions qui vont être très loties et d'autres très peu. C'est pour ça souvent dans les affaires qu'on a pu entendre, c'était souvent peut-être des lieux où les gens étaient beaucoup plus seuls. Et quand ils vous disent oh, ben, c'est gentil, vous nous dites on est soulagé sur la douleur, etc. Mais nous, quand on est là dans tel endroit, c'est ce qu'a d'ailleurs reconnu le professeur Sicard, il dit il y a des lieux où c'est quand même très 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 déficient, l'accompagnement, la prise en charge de la douleur. Donc ça, c'est très hétérogène et ça justifie la demande de nos contemporains, nos citoyens, pour dire écoutez, vous parlez des soins palliatifs, mais ils sont pas là partout. Donc problème. Ça nous incite à la formation, à l'information et à s'engager dans ce développement, en particulier aussi dans le bénévolat, par exemple. Les peurs de souffrir, les peurs de la dépendance, les peurs du regard des autres, les peurs d'être à charge, les peurs d'être inutile, ça revient tout le temps dans les demandes d'euthanasie. Je pense à un monsieur qui avait un cancer pulmonaire, qui j'ai été appelé aussi pour ça. Il demande réitéré, tous les jours, il demandait l'euthanasie. Je vais faire très simple l'histoire, mais on a beaucoup parlé. Il avait 3 enfants et il a fini par m'expliquer. Alors, il voulait rentrer à la maison. En fait, il m'a avoué après que c'était pour essayer de se suicider. Et en fait, on n'arrivait pas à comprendre en équipe. On en a beaucoup parlé. Finalement, en substance, hein, il m'a dit, donc il voulait rentrer à la maison, il m'a dit, je vais en parler avec un de mes fils. J'ai dit, écoutez, parlez-en, très bien, mais le projet est difficile, vous avez vraiment besoin, vous avez des symptômes compliqués, vous avez besoin qu'on vous aide, c'est peut-être un peu prématuré. Et très étonnamment, le lendemain, je le revois, je dis, vous avez pu parler avec votre fils? Il me dit oui, mais il n'avait pas parlé du retour à domicile, il avait parlé de la conversation qu'on avait eue antérieurement. À savoir, il essayait de tester comment son fils le trouvait. Et il m'avait avoué, il m'avait dit, mais dans l'état où je suis, avec mon corps, et alors il était conscient, il pouvait parler, il m'a dit, je ne peux pas croire que mes enfants m'aiment encore. Et en fait, c'est ça dont il a pu aborder cette question, je ne sais pas comment, c'était son secret, avec son fils. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'il a vécu encore 3 semaines. Je lui ai dit au revoir un vendredi soir, il est décédé un samedi soir. Et j'ai appris qu'il avait eu là aussi un tout petit peu d'anxiété, qu'il a rien demandé tous les jours avant, alors qu'il avait des symptômes difficiles, hein, respiratoires. Il a demandé dans l'après-midi quelque chose pour juste le calmer un petit peu. Donc il a peut-être eu 2 heures d'inconscience. Et sa femme est venue nous voir 1 an après. Voilà, elle m'a reparlé des obsèques, elle m'a dit, docteur, c'était incroyable, c'était que de l'amour. Voilà, tout ce qui s'est passé n'a été que de l'amour. Et là, c'était, voyez, encore une demande d'euthanasie, voilà, pour un petit exemple. Bon, en sachant que les accompagnements, quand on a été sur ces demandes-là, là, je me centre un peu sur l'euthanasie parce que bon, on est un peu dans cette question, hein, mais quand il y a cette problématique-là, où il y a tant de choses sous-jacentes à cette demande, on a remarqué qu'on était entre 15 et 40 heures d'accompagnement. Voilà, je vous dis ça pourquoi. Bon, je pense que ça rejoint beaucoup d'expériences des uns et des autres, mais ça veut dire que, ou des bénévoles, ou des proches quand vous accompagnez, ça veut dire que voilà, ça s'enlève pas par coup de baguette magique, cette demande. Alors c'est vrai qu'entre mettre un sédatif dans un but euthanasique ou accompagner, c'est vrai qu'on est dans la balance, c'est pas, voilà, c'est ni le même temps, ni le même coût, etc., en temps, énergie, mais bon, le résultat n'a rien à voir, hein. Donc ça exige beaucoup de temps, d'écoute, d'attention, de compétences. Une autre petite histoire, ou peut-être que je la dirai dans les questions, si vous avez des questions sur l'euthanasie, sur une jeune femme qui était hollandaise, qui m'a raconté quelque chose autour de l'euthanasie dans sa famille. Mais on pourra en reparler plus tard. Là, c'était un exemple dans un pays où la loi est passée, sur les conséquences. Voilà, bon, je vais m'arrêter sur l'action soppatif. Mon 3e point, c'est comment être acteur, comme personne déjà, enfin comme personne, comme être humain. Je vais pas décliner en tant que proche, soignant, etc. Enfin, déjà comme personne, hein, je crois que auprès d'une personne malade, la présence. Là, je donne des mots aussi, la présence, l'accompagnement, c'est être à côté, au pas à côté de la personne, ni trop devant, ni trop derrière. Trop devant, on est dans des deuils anticipés, souvent on le voit, c'est-à-dire on devine tout, on fait tout, mais du coup le malade nous dit après, mais moi, quelque part, il n'en est pas du tout là. On peut être loin derrière et ne pas entendre les perches. Or, les personnes malades tentent des perches, hein. Tentent des perches. C'est 3 mots, une petite phrase du style « Vous parlez Noël, si je suis encore là ». Enfin, oui, c'est des tout petits mots. Il faut être très, très délicat et attentif, hein. Mais vous le savez comme moi. Il faut vraiment ouvrir grand ses oreilles et on entend des petites choses comme ça. ne veut pas dire qu'il faut y répondre tout de suite, ça veut juste dire tiens, bon, mais ça, ça peut réveiller des angoisses, ça peut réveiller des peurs, et donc quand on a soi-même toutes ces peurs et ces angoisses, surtout quand on est très proche, bah, je crois qu'il y a aussi un devoir de se faire aider, soutenir, d'aller voir soi-même le médecin. C'est un conseil qu'on donnait souvent en accompagnement, surtout pour les conjoints, qui s'épuisent, qui font tout, et on disait non mais prenez un petit temps, faites-vous aider, vous dormez plus, allez voir le médecin. Voilà, c'est important aussi, même pour des enfants. On accompagne souvent d'enfants, de parents malades, et les enfants, ben finalement, on n'y fait plus trop attention parce qu'on est là, on est le malade, et puis l'enfant, il est parfois mis de côté. Hein. Alors un jour, on vous dit, ben l'enfant, il dort plus, ben l'école, ça se va pas bien. Un jour, on nous dit comme ça, il y a un petit garçon à l'école, ça allait plus du tout, puis il dormait plus. Et puis, maman me dit, ben je lui en ai parlé à la maison, il s'agissait de sa grand-mère, elle me dit, ben non, pas trop. Je lui dis pose des questions, pas trop. Puis vous savez, on est tellement occupé, puis on est là tout le temps. Enfin bon, à l'hôpital, c'est pas possible, on peut pas tout faire. Je lui dis posez juste lui la question de comment il est, comment il va, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qui va pas. Est-ce qu'il a vu sa grand-mère? Il avait pas vu sa grand-mère. Et on était mercredi matin. Je lui dis mais vous pouvez peut-être lui demander puisqu'il va, il avait pas école l'après-midi. Vous rentrez déjeuner? Elle me dit d'accord docteur, on rentre déjeuner. Je vais lui poser la question. Elle a demandé au petit garçon comment il allait, ce qu'il souhaitait faire, et voulait voir sa grand-mère. Donc ils sont venus l'après-midi, il a vu sa grand-mère, il a passé un long temps avec sa grand-mère. Sa grand-mère est décédée le soir. Ça faisait plusieurs jours qu'on était en attente comme ça sans bien comprendre. On a la même chose avec un autre petit garçon aussi. Et là, par contre, le grand-père n'est pas décédé, mais du coup, voilà, il a pu reparler des épisodes de pêche, de jeux de cartes, etc. Il avait 8 ou 9 ans, puis il faisait beaucoup jouer avec son grand-père. Et en fait, ça a été très, très festif, hein, finalement. Après, il venait le revoir tous les jours pendant plusieurs jours. Et cet enfant avait été mis de côté. Alors là, c'est les peurs des parents, etc. Ça, c'est, j'encourage vraiment, voilà. Alors, pas les laisser aller seuls, bien sûr. S'ils n'ont pas envie, il faut pas les forcer, bien sûr. Mais c'est juste, voilà, être à côté du malade, mais aussi du proche. Juste et sentir, voilà, t'en es où, tu ressens quoi, vous voyez, l'instant présent. Donc l'écoute, c'est très important. Tant se faire que peu, rester en paix. Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Mais on voit bien, hein, voilà, moi j'ai eu des décès dans ma famille, j'en ai tous eu, et même jeunes. Vous voyez bien comment vous êtes pris par l'angoisse, quoi. Et puis des fois, on est démunis. Hein. Ben, je crois qu'il faut tirer des sonnettes d'alarme. Il faut, voilà, le Seigneur donne au moment voulu. Donc, on passe un coup de fil, on demande à quelqu'un qui a vécu ça, mais ne pas rester seul, ne pas s'enfermer dans sa souffrance, même comme proche. Beaucoup dialoguer, communiquer avec la personne malade, bien sûr, en respectant ses temps de silence aussi, parce que la personne qui va se séparer de la vie a besoin de temps de silence aussi, hein, donc attention à ne pas étouffer non plus, mais aussi communication, dialogue avec le corps médical. Alors moi j'ai beaucoup d'appels d'amis, etc., qui me disent mais non, on voit pas le médecin, bah, je lui dis vous voyez pas le médecin, mais vous avez demandé à le voir, mais il est toujours pris, on le voit pas, on l'appelle, il sort de la chambre, il est pressé, etc. Je lui dis, mais vous demandez un entretien médical. Et puis vous arrivez, essayez d'arriver tranquillement, pas en commençant à agresser, ou voilà. Parce que les médecins, on leur porte beaucoup de jugements. Oui, il a pas dit ça, il en a trop dit. Enfin, on dit jamais assez, on dit toujours trop. Mais dans le final, les médecins, c'est pas des erreurs hein, quand ils font ça. Enfin, il y en a peut-être qui s'y prennent mal, mais il y en a qui s'y prennent comme ils peuvent. Hein. Et souvent, c'est dans un grand respect. Simplement, on peut pas tout dire à tout moment. Anticiper, tant se faire que peu, certaines situations. Là aussi, c'est des situations qui se préparent pour éviter d'être dans les urgences et les angoisses, où là, on fait tout très mal. Alors là, il y a beaucoup de petites choses qui, curieusement pratiques, ne se font pas encore. Quelqu'un de malade, par exemple, moi, je conseille souvent, même en cardiologie, d'avoir un courrier du médecin dans la poche, quoi. Ou si on va 3 jours à la campagne, d'avoir un courrier avec soi. Bon, c'est des choses vraiment très bêtes, hein, mais on voyait des personnes qui avaient besoin d'aller à la campagne, qui étaient vraiment dans un stade avancé. Alors on essaie de dire, ah bon, il y a des médecins à côté, mais il n'y a pas trop de médecins, etc. Puis finalement, qu'ils partent avec rien. Alors il y a un problème qui se passe, et ben on appelle, il n'y a pas forcément de SAMU, les urgences, etc. Puis c'est la catastrophe. Et du coup, il y a des actes qui se posent en catastrophe. Et là c'est l'angoisse, et du coup, on perd la paix. Et c'est sûr qu'on ne peut plus être dans l'aide. Et puis respecter les défenses aussi des uns et des autres. Là, c'est plus des questions psychologiques, mais ça peut être important de juste comprendre un petit peu les mécanismes de défense quand on est malade, comment ça se passe. On vous donnera dans la bibliographie. Voilà, je terminerai dans la contemplation du Christ. Voilà, j'étais très frappée en essayant de dire à Jésus, mais Jésus, comment tu as fait toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pendant ta mission? Il s'occupait que des malades. Jésus, il a enseigné, il a guéri, il a prié, il a pardonné les péchés. Voilà, en 3 ans, il était avec ses amis, il était avec les femmes, il était avec la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé toucher. J'étais frappée, je repense à Marie-Madeleine, je me dis, tiens, quand même, c'était quelques jours avant sa passion. Alors, vous allez me dire, il n'était pas en fin de vie, mais il était en fin de vie quand même, quelque part. Hein. Enfin bon, pas une fin de vie d'une maladie chronique, mais je me dis, il s'est laissé toucher, il s'est laissé parfumer, il s'est laissé masser les pieds. C'est quand même pas rien. La femme hémorroïde, qui était toute courbée, s'est laissé toucher son manteau. Il a touché, quand il a guéri l'aveugle, il a touché avec la terre, il lui a posé les mains sur les yeux. Il s'est laissé aimer, il a regardé, il a parlé, il a écouté. J'étais frappée aussi sur les jours avant sa passion, quand il dit « je monte à Jérusalem pour sa mission », c'est-à-dire aller sur le chemin du Golgotha, pour sauver l'homme, pour lui apporter la vie en abondance, comme il nous l'a promis. Donc c'est pour la vie. Dans la montagne de Jérusalem, il a eu la scène avec ses disciples, donc il a échangé. Il a embrassé son ami, qu'il a trahi. Quand on sera peut-être nous-mêmes dans ces circonstances de maladie, si on a une fin de vie comme ça, ben toutes les questions des réconciliations, les questions des conflits, voilà, on peut être enfermé dans quelque chose qu'on ne peut pas pardonner, comme on l'a entendu hier soir, je crois. Voilà, c'est là de redonner ça au Père. Jésus, il a réussi à embrasser quelqu'un qui l'a trahi, quoi. Donc lui demander la force aussi pour ça. Et puis sur le chemin de croix, voilà, Véronique lui a lavé le visage. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire comme ça dans les dernières heures, quand les familles n'étaient pas présentes, ou voilà, ça se trouve comme ça, vous venez aller tout seul. Dans des temps comme aujourd'hui, là, on n'avait pas la clim et tout ça, hein, donc c'est bon. Ben, c'est très impressionnant de prendre un mouchoir et d'essuyer le visage de quelqu'un qui va mourir. Voilà, mais Jésus s'est laissé faire. Il a eu Simon de Cyrène qui l'a aidé à porter sa croix. Vous voyez, il s'est vraiment laissé aider aussi. Il s'est pas enfermé. Et alors sur la croix, c'est l'apothéose. Hein, il nous montre. Il dit, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire, voilà, si vous pouvez pas pardonner, ben, Père, pardonne. Il se retourne encore vers le larron. Il est encore dans l'ouverture. Ben, tout ça, c'est des leçons, je trouve, de méditation aussi pour nous-mêmes, pour nos proches, de dire mais comment on peut aider l'autre aussi. Alors sans forcément, j'allais dire, être chrétien, hein, voilà, là je donne des réponses comme ça, enfin des pistes, mais pas forcément en étant chrétien, mais on peut vivre dans le silence, ça, et puis le faire passer par d'autres mots et d'autres attitudes et gestes. Donc Jésus nous apprend à vivre et à mourir. L'Église nous donne ses sacrements, ben, le pain de vie, voilà. Je pense à un patient qui était dans le coma, et il a reçu les derniers sacrements, c'était quelqu'un de ma famille. Le prêtre lui a donné une parcelle d'hostie parce qu'il était dans le coma, donc c'était un petit peu difficile de donner tout l'hostie. Et il a commencé une prière que la personne connaissait, et j'ai vu les lèvres s'ouvrir. Voilà, il a terminé la prière avec le prêtre, dans le coma. Donc ça, c'est le pain de vie, la confession, la prière, la nôtre, la prière des frères, l'intercession, l'ouverture à l'Esprit Saint. Moi, je sais que chaque fois que j'entrais dans une chambre, quand c'était des cas très très durs, très conflictuels, on est très démunis, hein. On n'est pas spécialiste, pas parce qu'on a un petit peu d'habitude, tout ça, on peut être très démunis. Moi, avant d'entrer dans la chambre, je disais, la Vierge Marie, tu passes devant, et l'Esprit Saint, vraiment, tu ouvres le cœur, parce que je sais pas ce qui va se passer. Et c'est angoissant aussi, hein. Quand on a des demandes d'euthanasie, que la personne vous regarde en face en disant, docteur, pourquoi vous le faites pas? Mais pourquoi vous le faites pas? Vous voyez pas que c'est inhumain ce que je vis? Je vous promets que c'est pas simple, hein. En face, c'est difficile, hein. Voilà. Et aussi, très rapidement, les saints, la vie des saints. Sainte Thérèse, qui a, comme vous l'avez peut-être entendu, dit à la fin de sa vie, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Elle a quand même demandé à un moment, elle a dit heureusement que les médicaments, on ne les a pas mis sur ma table de nuit, quand elle a eu ses grosses tentations par rapport au suicide, parce qu'elle souffrait beaucoup. Ça veut dire qu'un malade qui est très douloureux, le premier devoir, c'est évidemment lui soulager sa douleur. Alors, Sainte Thérèse, c'était il y a 100 ans, mais là, vraiment, on ne peut pas laisser quelqu'un dans la douleur comme ça, c'est pas humain. Élisabeth de la Trinité, je vais à la lumière, à l'amour et à la vie. Pierre-Georges Frassati, on en parle dans la biographie, les 5 derniers jours de vie, c'est très très incroyable. Là, ça peut être intéressant par rapport à l'accompagnement des proches. Et puis, voilà, je vais terminer avec la prière de Jean-Paul II. Vous savez qu'il avait écrit une prière bien avant d'être malade. Je ne sais pas si vous le savez, voilà. Elle est un petit peu longue, mais ça me semblait peut-être bien de terminer avec lui, puisque c'est quand même, alors j'ai pas encore cité le maître mot, l'évangile de la vie, qu'on vous donnera dans la bibliographie, qui est vraiment un évangile extraordinaire, sur complètement actuel, c'est 95, mais les mots, enfin tout le chapitre par rapport à la question de la fin de vie, aujourd'hui, il n'y a pas une parole qui n'est pas importante, c'est incroyable. Et Jean-Paul II, qui a dit que c'était l'encyclique la plus importante de son pontificat, a vécu en chair et en os, si je puis dire, cet évangile. Et voilà ce qu'il avait écrit. Alors je n'ai plus la date du moment où il l'a écrit, mais enfin c'était avant sa maladie. Voilà sa prière. Seigneur, voilà plus de 65 ans, donc il avait 65 ans, que tu m'as fait le don inestimable de la vie. Et depuis ma naissance, tu n'as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini. Au cours de toutes ces années, se sont entremêlées de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde. Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers toi. Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d'avoir été l'objet de ton amour. Mon âme te chante sa reconnaissance, mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que tu éprouves fortement. Elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n'ont plus la force de te prier. D'autres ont perdu l'usage de leurs facultés mentales et ne peuvent plus t'atteindre à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je me dis, si c'était moi. Alors Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je t'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté. Et dès maintenant, je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je te demande de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide. Si un jour la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si un jour un état d'inconscience prolongé devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant toi pour chanter tes louanges éternellement. Amen.